Mesdames, Messieurs.
Quel genre d'histoire ?
Des histoires.
Et après ?
537 représentations.
La vie est romain, c'est différent.
Troisième partie de cette livraison d'Indiscipline, magazine transversal plié en quatre pour ce mois de mai, à l'occasion du festival Les Musiques, proposé par le GMEM, Centre National de Création Musicale. Une troisième livraison consacrée au théâtre musical, lien entre le texte, la musique et le geste, sans doute l'héritier du plus historique avatar de la transversalité, à savoir l'opéra. Aujourd'hui, dégraissé de ses divas bedonnantes, de ses contrutes fracassantes, de ses mises en scène ampoulées et de ses livrets insipides, le théâtre musical s'accorde autant présent, se donne des libertés dans une écriture scénique qui ne requiert pas forcément de son public une érudition d'aficionado, ni de ses acteurs la vêture d'improbable falbala. Le texte, autrefois prétexte, retrouve sa place naturelle, quitte les sentencieux récitatifs entrecoupés d'aria pour délivrer tout son sens, accueillir poésie, histoire, légendes et essais, bref, donner aux mots et à la chose un sens commun et accessible à tous. Hourra ! Pour évoquer les formes contemporaines de ce théâtre musical, deux musiciens particulièrement pertinents en ce domaine, Françoise Rivalan et Jean-Christophe Marty. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous l'avez noté, le théâtre musical, et non pas l'opéra, ni l'opérette, ni la comédie musicale, le théâtre musical a fait peau neuve. Est-ce qu'on peut parler de rupture avec le passé du théâtre lyrique ? Qui veut commencer sur cette question ? Françoise Rivalan.
Oui, moi je pense, je ne sais pas quand vous dites peau neuve, si vous parlez d'aujourd'hui ou bien alors du moment où auraient été identifiés les premiers mouvements qu'on a nommés théâtre musical, qui sont dans les années 60 avec Ligeti, Aventure, Nouvelle Aventure, ensuite Kagel et Schnabel, dont Georges Apergis a pris la suite. Je pense qu'il y avait une nécessité de créer un espace justement autre que celui de l'opéra, en dehors des règles de l'opéra, que moi je ne renie pas, elles ont toujours leur utilité. Un espace où on pouvait aller à l'aventure en faisant se rencontrer des éléments qui étaient du texte, du geste, de la musique, de l'action, qui ne soient pas dans le format justement aria, duo, opéra, 3 heures, etc., etc. Je pense qu'il y avait une nécessité vraiment de créer un nouvel espace sans savoir exactement ce qui serait. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui exactement ce que c'est ? C'est un vaste débat, voilà.
Sur cette question, Jean-Christophe Marty.
Alors d'abord, je vous ai trouvé d'un optimisme extraordinaire dans votre présentation, parce qu'on a l'impression qu'on aurait atteint aujourd'hui une maturité qui nous permettrait de repousser des conventions. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces conventions ont la peau dure. En fait, elles continuent d'exister et d'être une demande d'un public très vaste, ou disons assez vaste, et que l'opéra, évidemment, coexiste aujourd'hui très académiquement avec d'autres formes expérimentales, plus expérimentales. Alors moi, ce que je pourrais dire sur cette question du théâtre musical, c'est que le mot me gêne, parce qu'il me semble qu'on a créé une sorte d'ectoplasme un petit peu, avec ce label, en fait, hein, ce mot-là. On a créé un genre hybride en prenant d'un côté le texte et le théâtre, et de l'autre la musique, et en essayant de faire coïncider deux entités qui restent, jusque dans l'appellation même, théâtre musical, deux entités séparées qu'on rejoint. Si vous voulez, c'est une sorte d'addition, en fait, voilà, c'est ça qui me gêne. Or, une addition suppose deux domaines à l'origine séparés et qui restent, d'une certaine manière, séparés, même si on les amalgame dans une équation. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, je me suis plus intéressé, disons, à une notion de continuité entre, par exemple, la parole et le son musical, entre le geste et le geste instrumental, donc le geste, je dirais, anthropologique banal, enfin, sans connotation esthétique. j'essaye de penser le rapport entre la parole non esthétique entre guillemets et puis une sphère qui serait une sphère de création ou de je sais pas de travail. Expérimentation, j'aime pas trop parce qu'il y a toujours un côté on fait une expérience sans lendemain en fait. Hein. Donc j'essaie de travailler sur le continu entre la parole et la musique. En ce sens-là, je fais si on veut du théâtre musical, mais en fait je fais ce qu'on fait toujours l'opéra et les compositeurs quand ils ont utilisé la parole, le verbe, les mots. Non pas parce que les mots étaient séparés de la musique et qu'ils mettaient en musique les mots, mais parce que finalement il y a une réalité de continuité dans la poésie même, dans la poésie, dans les textes sacrés, dans tout le patrimoine de l'humanité. Finalement il y a une sorte de continu, je sais pas si je suis clair, hein, je suis peut-être un peu théorique. Et alors ce qui me gêne avec le label théâtre musical, c'est justement que c'est devenu une sorte de genre. Et en fait, je ne crois pas que ça existe, en fait. Alors, j'aime énormément Apergis et Jacques Rebautier, par exemple. J'admire beaucoup leurs œuvres et je les aime énormément. Même je m'en réclamerai, d'une certaine manière. Mais je me méfie du label, de la labellisation transversalité théâtre musical.
C'est un comble, en tout cas, effectivement, que la volonté de transversalité devienne elle-même une catégorie, alors qu'il s'agit justement de la volonté d'échapper aux académismes et aux catégories. Sinon, je pense que vous l'avez bien compris, l'introduction était quand même un peu plus provocante et il fallait la prendre au deuxième degré. Après tout, l'opéra tout à fait légitimement produit des chefs-d'œuvre, en a produit de nombreux et continue d'en produire aussi.
Juste dire quelque chose par rapport au label, théâtre musical. Moi, je pense que ni Georges Apergis ni Jacques Rebautier n'ont inventé ce label. Ça, c'est vraiment... Il y en a, en tous les cas, pour Apergis, que je connais mieux. C'est pas son propos d'avoir inventé un label. Je pense que, de toute façon, toute tentative de définition du théâtre musical ou de la musique-théâtre, puisqu'au départ, ça s'est plutôt appelé musique-théâtre en allemand, elle est très complexe, puisque d'habitude, on attribue un nom à la musique en fonction de la forme. Et justement, cet espace-là, qui était nouveau, était sans forme, et on a beau essayer depuis de le définir, enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est indéfinissable, alors c'est en même temps un fourre-tout, et alors qu'est-ce que ce serait le théâtre musical? Est-ce que ce serait seulement Kagel, Apergis, Ligeti, et pourquoi pas d'autres? Ou est-ce que le griot africain fait du théâtre musical? Donc, moi, j'ai, avec les années, j'ai fini par ne plus m'arrêter à ce terme du tout, et j'attends effectivement de cet espace-là qui m'apporte ce qu'il a pu apporter à ses compositeurs. C'est un endroit particulier où je peux m'exprimer avec des moyens particuliers et qui sont spécifiques à chaque spectacle. Voilà.
Donc je rebondis, faisons une pétition à partir d'aujourd'hui pour supprimer le mot théâtre musical. parce que c'est un leurre, en fait. C'est-à-dire ça, du côté des décideurs culturels, il y a un type de produit qui est présenté de cette manière-là. Or, pour moi, c'est simplement la reprise d'un projet et la réactualisation d'un projet qui est toujours vivant, qui est celui, par exemple, du rapport entre l'instrumental et le verbal, par exemple. Et quand je dis le verbal, c'est aussi bien le verbal non esthétisé, a priori, ou le verbal esthétisé qui existe dans la poésie, dans le théâtre et dans toutes les formes de théâtralité qui peuvent être décrétées esthétiques, en fait. Hein.
Justement, à propos d'esthétique, une esthétique au XIXe siècle qui était une esthétique un peu totalitaire, on parlait à l'époque de Gesamtkunstwerk, d'œuvre d'art totale, pour qualifier l'opéra et les formes les plus actuelles à l'époque d'opéra. Aujourd'hui, on a un peu quitté cette volonté mégalomaniaque, on aborde le contenu de ce qu'on appelle quand même malgré tout le théâtre musical, continuons de l'appeler comme ça pour l'instant, à défaut de lui avoir trouvé une autre dénomination. On parle donc, quant à son contenu, plus volontiers de synesthésie entre le geste, entre le son, entre la couleur, entre le mouvement. Synesthésie, l'esthétique apparaît dans ce terme, hein, c'est la mise en commun des esthétiques. Donc est-ce que vous vous accordez sur ce terme-là de synesthésie et sur l'implication avec l'esthétique, peut-être pour poursuivre ce que vous disiez à l'instant, Jean-Christophe.
Bon, alors le concept de synesthésie, il est contemporain de l'œuvre d'art totale de Wagner, puisqu'en fait, c'est les symbolistes, et notamment Baudelaire, par exemple, hein, en France, qui l'ont beaucoup travaillé. L'idée que les couleurs renvoient des sons, et c'est un projet que Debussy a retravaillé ensuite à sa façon, dans la continuité de Baudelaire, hein, donc de l'esthétique baudelairienne, et même Mallarmé, d'un certain point de vue. Hein, bon. Donc c'est le symbolisme, et le symbolisme est contemporain de Wagner et de Maeterlinck, et en fait, c'est la même école de pensée, mais totalitaire, je dirais plutôt totalisante, hein, dans l'idée de justement. Mais moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste sur ce mot de continu. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est la continuité entre des dimensions supposées séparées ou que la pensée sépare de façon arbitraire. Par exemple, la parole parlée et la parole chantée, par exemple, hein, qui sont censées être séparées dans nos traditions, relativement séparées, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est pas de les séparer, c'est de travailler sur la continuité, finalement, qu'il peut y avoir dans ces phénomènes sonores et dans ces phénomènes d'émission comme de réception, que sont la parole ou que sont l'écoute ou le jeu instrumental ou le jeu vocal. Et c'est moi, c'est cette notion de continuité qui m'intéresse profondément. Et aussi, je pourrais en référer à des linguistes ou à des gens comme Méchonique, par exemple, Henri Méchonique, qui est traducteur et qui est poète et qui parle toujours du continu entre la parole et et le poème. Donc je pense que la musique a vraiment à voir avec ça. Et encore une fois, lui faire accoucher d'un projet esthétique totalisant, ça me semble un peu à côté par rapport à cette notion du continu. Et moi, c'est au cinéma que ça se travaille, cette chose-là, par exemple. Pour moi, certains cinéastes ont réussi à incarner cette idée d'une œuvre d'art qui englobe les différents phénomènes.
Les journalistes, et je suis bien placé pour le savoir, racontent beaucoup de conneries. L'un d'entre eux, à propos de l'œuvre de Georges Apergis, parlait de fusion et confusion des genres. Ça me paraît être un vrai contresens, et dans la suite de ce que disait à l'instant Jean-Christophe Marty, de cette notion de continuité qu'il évoquait, qui est certainement bien différente de la confusion, on pourrait aussi parler d'architecture, on pourrait aussi parler de construction, on pourrait aussi parler d'assemblage, comme on parle de l'assemblage d'un vin, par exemple, d'un grand cru. Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors d'abord, peut-être une réaction sur cette notion de confusion des genres, et puis ensuite sur cette notion d'assemblage, d'architecture dans le théâtre musical, Jean-Christophe Marty.
Non, ce qui est confus dans cette idée de confusion, c'est que justement, ça suppose la relation, suppose les termes et tient les termes. C'est-à-dire que si vous parlez de confusion, vous parlez de deux choses séparées qui se confondent. Et donc, vous évitez, une fois de plus, cette notion de continu que j'essaie d'expliciter un petit peu, même si ça paraît comme ça un peu compliqué. Donc je pense qu'effectivement, parler de confusion à propos d'Apergis, c'est rajouter une confusion là où Apergis travaille justement sur le continu entre la parole, le geste instrumental et l'écoute instrumentale et l'écoute verbale. Parce que moi, ce que j'aime particulièrement dans leurs œuvres, à Apergis, Rebautier ou Richard Dubelski, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur la parole et sur le rapport entre, je dirais, la diction verbale et la diction instrumentale et vocale. Vocale au sens, disons, alors là, peut-être chanter, si on veut, hein, puisque le parler-chanter, c'est très compliqué, cette histoire de parler-chanter, justement. Moi, le Sprechgesang ne m'intéresse pas, justement, parce qu'il suppose que d'un côté, on aurait le parler, et de l'autre, le chanter. Je m'intéresse à tout ce qui pourrait être, justement, de l'ordre du continu entre ces dimensions-là. Alors, ça paraît très abstrait, comme ça. Ça ne veut pas dire que je n'écris pas de notes de musique et que je ne propose ni harmonie, ni mélodie. Hein, j'en propose. Mais disons que je sais qu'une de mes sources d'inspiration, c'est le rapport entre le le son de la parole et quelque chose d'autre qui serait la voix ou l'instrument, etc. Et si je peux me permettre de donner un petit exemple, j'ai travaillé sur les chants d'oiseaux, mais pas sur les chants d'oiseaux comme entité mélodique comme chez Messiaen, mais sur la parole que les paysans des zones occitanes entendaient dans les chants d'oiseaux. Ce qu'ils appelaient les mimologismes, en fait, enfin ce que les ethnologues ont appelé les mimologismes, c'est-à-dire les paroles qu'on prête aux chants d'oiseaux. Et là, j'avais l'impression que je travaillais vraiment sur le continu entre le son qu'on entend, la parole qu'on invente, qu'on devine, et celle qu'on produit, avec à la fois l'imitation du chant de l'oiseau, mais en même temps sa recréation sous une forme poétique, qui est aussi une forme musicale. Donc là, on a vraiment peut-être un exemple de continuité entre toutes ces dimensions, et pour moi, il ne s'agit absolument pas de confusion. Là.
Françoise Rivalan.
Moi, la confusion, probablement pas dans le sens où l'entend ce monsieur, je suis plutôt pour... Hein. Parce que ça peut créer un endroit où le public va projeter un imaginaire d'une façon différente. Ça peut créer de l'espace. Alors, je pense pas que lui, il voulait l'utiliser comme ça. Pouvoir tout le temps identifier les choses, encore une fois, les mettre dans des boîtes et tout ça, je pense pas que ce soit une chose très, très porteuse. Et qui permettent justement, moi je quand des fois, enfin, en plus franchement la confusion c'est quasiment le sujet du spectacle qu'on va jouer jeudi soir, puisque c'est cette fameuse heure entre chien et loup où on sait plus bien ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et donc je vais pas vous dire que je suis contre.
Christophe Marty, vous présentez pour ce festival Les Musiques une création intitulée Le Grand Dépaysement d'Alexandre le Grand, qui sera présentée le jeudi 17 mai. Une pièce basée sur une légende tirée du Talmud de Babylone, où l'on voit le célèbre conquérant macédonien s'interroger sur l'Afrique et sur ses peuples. Peut-être quelques mots sur ce texte et sur la manière dont vous l'avez mis en musique, justement.
Oui, c'est un conte qui est, au fond, on pourrait dire, sur la colonisation et sur les limites que l'Occident peut rencontrer dans son annexion des autres peuples et des autres civilisations. Et les rédacteurs du Talmud, 200 ans avant Jésus-Christ, se disent, mais au fond, est-ce que l'Occident peut annexer l'entièreté de l'humanité sans provoquer une catastrophe pour les personnes, pour les populations annexées, et pour l'Occident lui-même, d'une certaine manière, hein ? Une sorte de catastrophe mutuelle dont Conrad parle dans Au cœur des ténèbres. Donc, c'est sur cette traversée de l'altérité, en fait, qu'Alexandre désire. Il va en Afrique, et en Afrique, il rencontre un peuple de femmes. Et ces femmes lui enseignent, avec ironie, les limites de son pouvoir, en fait. C'est ça, le conte. Hein, si je le résume à grands traits. Mais vous voyez que dans ce conte se pose immédiatement la question de la langue, c'est-à-dire en quelle langue Alexandre parle aux femmes, et comment cette altérité se rencontre malgré la différence fondamentale, en fait, entre eux. Alexandre, c'est l'élève d'Aristote, il tombe sur des gens qui sont d'une autre civilisation. Est-ce qu'il y a un dialogue possible ou pas, sachant qu'aussi l'obstacle de la langue, très concret, mais aussi très symbolique, existe.
La langue et le signe, aussi quelque chose qui est à décrypter, ou qui permet de décrypter, ou qui permet de se comprendre, y compris lorsqu'on ne parle pas la même langue. Cette langue des signes, je crois qu'elle apparaît aussi dans ce spectacle. De quelle manière ?
Elle est à la base même du projet, en fait, d'un rapport. Alors, est-ce que c'est parce que la langue des signes et l'univers des sourds-muets, pour moi, symbolisent en quelque sorte une altérité fondamentale, puisque en tant que compositeur qui vit avec les sons, peut-être que la surdité est une sorte d'altérité fondamentale. Et pourtant, les sourds ont des expériences de la musique, et des expériences individuelles et très subjectives de la musique, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on entend dire souvent, qu'ils perçoivent les vibrations graves, par exemple. Voilà, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de tout le rapport visuel à la musique, et de tout le rythme des danses qu'ils pratiquent, du rapport affectif qu'ils ont avec la musique quand ils la voient chanter ou exécuter. Enfin, il y a toute une richesse, en fait, de perception de la musique par les sourds-muets, qui est donc, voilà, une vraie perception de la musique et pas une perception par défaut. Voilà ce que je peux en dire. Donc c'est vraiment, c'est pas dans l'idée de traduire pour des sourds-muets une musique à laquelle ils n'auraient pas accès. C'est pas un projet social, si vous voulez, d'écuménisme. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus expérimental. Moi, j'ai l'impression que ça rejoint mes préoccupations, justement, du rapport entre la parole et l'énonciation musicale. Voilà ce que je pourrais en dire en quelques mots.
La transversalité, c'est bien sûr croiser les champs des pratiques artistiques, mais c'est aussi les confronter aux sciences humaines, aux sciences sociales, à tous les territoires de la pensée. Peut-être deux mots, Jean-Christophe Marty, sur le travail que vous avez réalisé avec Arlette Farge, qui s'intitulait « Je crois, quel bruit ferons-nous ?»
C'est un livre d'entretien et qui retraçait un peu son parcours. Et c'est vrai que le titre dit que Arlette Farge a une attention très particulière au son au XVIIIe siècle, à travers les archives, puisqu'elle travaille essentiellement sur des archives de police du XVIIIe siècle. Or, beaucoup de ces archives de police contiennent des annotations sur le son. D'abord parce qu'à Paris, au XVIIIe, beaucoup de gens parlaient des langues différentes. Le français n'était pas unifié comme aujourd'hui, si tant est qu'il le soit. Mais disons que les gens avaient besoin d'interprètes constamment dans les tribunaux, ou dans les interpellations, ou dans la rue. D'autre part, le ton des voix comptait énormément et était beaucoup noté par les commissaires, etc. Donc il y avait tout un rapport au sonore. Donc avec Arlette Farge, on s'est posé la question du sonore, du rapport du peuple au sonore, et non pas le son esthétisé, celui que les partitions nous ont légué, enfin qui sont des très belles sonorités, mais disons les sons qu'on entendait dans Paris. Et d'ailleurs, c'est un travail que on approfondit un petit peu, et que notamment elle approfondit un petit peu en ce moment. Elle est aussi liée à l'histoire des femmes, d'ailleurs, hein, elle a beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes, et c'est aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, dans le conte que je mets en musique, c'est pas un hasard si y a que des Africaines au fond, c'est pas des Africains, c'est des femmes africaines, hein, comme si y avait aussi un symbole aussi là-dedans.
L'avenir de l'Afrique passe par les femmes africaines ?
Le présent surtout, parce qu'en fait on voit bien que dans les grandes rencontres, l'autre jour au Mali par exemple, il y avait une grande rencontre sur la politique alimentaire mondiale, et c'est vrai que les Maliennes étaient au premier plan par rapport aux hommes, pour des raisons sociologiques aussi, qui fait qu'elles travaillent beaucoup plus, qu'elles énormément plus. Enfin, toute la notion de labeur, de travail, repose beaucoup sur les femmes. D'ailleurs peut-être en partie malheureusement, parce que c'est une surcharge de travail avec les enfants, etc., c'est incroyable. Donc c'est vrai que le monde africain est marqué, comme on l'a vu dans le film de Sissako, là récemment, Bamako, magnifique, on voyait bien la présence des femmes, l'importance des femmes dans la culture, dans la pensée, mais dans la pensée aussi, dans la pensée politique. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a aucun doute que les femmes sont aux avant-postes des luttes. Et je crois que dans mon conte, elles symbolisent aussi une altérité supplémentaire. Alexandre ne se retrouve pas face à des guerriers vis-à-vis desquels il pourrait être un peu sur un pied d'égalité, parler de la même chose, de la stratégie guerrière ou du combat. Il se retrouve face à des femmes, c'est-à-dire peut-être des personnes qui justement lui apportent une toute autre logique. Encore plus que s'il avait été face à simplement des armées différentes, je sais pas moi, avec des arcs et des flèches. Il se retrouve face à des femmes qui justement refusent en fait de rentrer dans la dialectique du combat. Et c'est ça qui lui enseigne quelque chose.
Une réaction là-dessus, Françoise Rivalan ?
Oui, non, je pense qu'effectivement... En Afrique, bon, c'est très très sensible, mais il y a beaucoup d'autres endroits. Si vous voyez l'essor des microcrédits et tout ça, c'est vraiment ces dames qui ont cru forcément, parce qu'elles avaient, je pense qu'elles ont un rapport au concret qui est beaucoup plus fort que ces messieurs qui vont à la guerre ou à la place. Et donc, question de pouvoir s'organiser pour défendre et pour fonctionner différemment, on est en droit de croire que les femmes peuvent donner un bon coup de main, oui.
Françoise Rivalant, vous nous proposez Entre chien et loup le mercredi 16 mai. C'est une pièce de Georges Apergis, créée, je crois, en 1999 à Munich, mais sous un autre nom, sous le nom de Zweili. On y trouve notamment des extraits de textes de Paul Klee, de Goethe, de Kafka, de Léonard de Vinci. Peut-être pour la définir, une ode à la couleur, à la lumière, à l'indéfinissable. Est-ce qu'on peut parler de peinture musicale ?
Oui, enfin, entre autres, voilà, c'est aussi de la musique qui est peinte, parce que, par exemple, quelqu'un comme Paul Klee a eu une vie artistique ou musique, puisqu'il était lui-même violoniste, quand on lit des correspondances, pour lui, c'était intimement lié dans sa création. Donc, pour vous faire un petit historique, Zwielicht, en fait, ça veut dire entre chien et loup, ça veut dire clair-obscur. Et donc il y a eu une première version allemande, effectivement, qui a été créée. Nous, on a repris une version française en 2003, je crois. Et là, on a fait une nouvelle version. On voulait resserrer le spectacle, le retravailler. Bon, voilà. Effectivement, moi, je n'ai pas une histoire à vous raconter. En même temps, puisque ça parle, sans être un collage au départ, puisque c'est quand même une partition qui a été écrite du début à la fin par Georges Apergis quand nous on a mis le nez dedans, mais par contre pas encore réalisé scéniquement, c'est le travail qu'on a fait en répétition. Néanmoins, ça ne parle que de ça, de ce moment de confusion justement, de ce moment où on voit quelque chose, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Et je pense que c'est un endroit où, effectivement, en plus, dans le spectacle, il y a énormément de superpositions. C'est pour ça, vous dire que c'est seulement de la musique et de la peinture, je pense que c'est aussi de l'énergie, de l'action, du sens aussi, puisque petit à petit, malgré tout, nous, on devient des acteurs, même si c'est pas ce qu'on cherche. En tous les cas, on est des. Il y a 7 personnes sur le plateau, une chanteuse qui est Donatienne Michel Dansac, un comédien qui est Pierre Clara, violoncelliste Hélène Andreyev, pianiste Vincent Leterme, flûtiste Sophie Dehay, Gilles Deléège, altiste, et donc moi à la percussion. Et nous sommes des gens qui, pendant une heure, essayons d'expérimenter tout un tas de choses. Voilà. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, c'est normal. Donc on en devient acteur de ça, on est comme dans un atelier où on ferait toutes les tentatives possibles pour créer du rêve, en fait.
Une manière d'examiner le réel sous toutes les coutures, après tout, je crois que c'est ce que Léonard de Vinci essayait de démontrer avec le sfumato, c'est que pour montrer un paysage ou une figure de manière la plus réaliste possible, il ne fallait pas que tous les traits soient délimités, mais qu'il fallait au contraire un peu de flou pour avoir une perception plus réaliste de la réalité. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve en musique, cette espèce d'indéfinissable, et peut-être sous quelle forme ?
Non seulement en musique, ça c'est évident, parce que bon, là il y a tout un travail, notamment avec l'instrumentation de percussion, mais c'est aussi une chose qu'on a énormément travaillé au niveau scénique, puisque nous on fabrique des images, on fabrique du son, on fabrique donc aussi des émotions, et on travaille en permanence, en fait, sur le fait qu'on voit l'image qu'on est en train de fabriquer, on voit le résultat de l'image, de ce qu'on fabrique, et il nous est arrivé aussi de filmer, en fait, les résultats de nos expériences et de les reprojeter. Et nous-mêmes, des fois, ça nous est arrivé d'être perdus, on savait plus si ce qu'on voyait à l'écran, c'était ce qu'on avait filmé ou ce qu'on était en train de faire. Et ça, pour moi, c'est un espace de projection qui est fantastique. Voilà.
J'aimerais que vous nous parliez aussi un petit peu de l'ensemble SIC, c'est-à-dire situation, interprète, compositeur. Alors, situation, vous êtes situationniste, Françoise Rivalant?
Bah, oui, c'est possible, parce que, enfin, de toute façon, si c'était ce dont ils ont rêvé, eux, avec plaisir, hein, d'anarchie, ça, je le revendique. SIC, c'est aussi une boisson pétillante qui existait quand j'étais petite sur les stades de foot, au citron et à l'orange. C'est aussi l'interjection latine qui veut dire « c'est ainsi ». Voilà, c'est jamais anodin, un titre, mais le situationnisme, oui, je le revendique. D'autant plus tranquillement qu'il est quand même très difficile à vivre au quotidien, donc ça détend. Cela dit, les rêves étaient et sont toujours de faire que ce soit un espace où les interprètes et les compositeurs prennent le temps de travailler ensemble. Voilà, après 21 ans, j'espère que c'est toujours le cas. Oui, c'est un ensemble où les musiciens qui sont là, les plus anciens maintenant sont là depuis une quinzaine d'années, et les plus récents sont là peut-être depuis 10 ans. C'est une bande de copains, et on y tient beaucoup, et c'est ce qui fait aussi leur engagement, je pense, dans des spectacles comme celui qu'on va jouer là.
Dans le cadre de cet ensemble, peut-être des projets à venir prochainement ?
Oui, une très, très grosse résidence qui va commencer vraiment la fin juin avec le studio Césarée à Reims. Pour nous, c'est une grande chance parce que SIC a été aussi, quand je l'ai créé, l'idée était de travailler dans le long terme. Et à chaque fois qu'on me propose de me projeter sur 3 ans, par exemple, pour faire une programmation qui ait une certaine logique et qui permette aux musiciens justement de prendre position, de se situer, donc je suis toujours très très excitée par ça. Donc ça, c'est le plus gros projet. Donc prochain concert, c'est le début de la résidence à Reims, aux Flâneries, le 23 juin.
Jean-Christophe Marty, oui. La création que vous proposez, Le Grand Dépaysement d'Alexandre le Grand, est toute récente. C'est, je crois, la création hein, pour ce festival Les Musiques. Peut-être d'autres travaux qui sont en cours, et puis peut-être le devenir de cette création. Elle va tourner.
Oui, j'espère. Là, c'est la version concert qu'on va donner. On va donner donc une esquisse de ce que sera la version théâtrale, qui supposera beaucoup plus encore d'interaction entre les chanteurs et les deux comédiens en langue des signes, qui sont des comédiens qui ont beaucoup travaillé à l'IVT, le théâtre d'Emmanuel Laborit à Paris, qui a rouvert cette année avec d'ailleurs des difficultés. Je crois qu'il faut vraiment encourager les gens à aller à l'IVT parce que c'est un théâtre qui a des difficultés financières, comme beaucoup de, malheureusement, de lieux culturels en ce moment. Je voulais dire aussi que Françoise Rivalant m'a fait rêver avec le SIC, parce que j'ai tout de suite pensé avec la boisson. J'ai tout de suite pensé au bruit. Je me suis dit que le bruit du SIC devait être merveilleux en fait quand on l'ouvrait. Et puis même quand on a une boisson gazeuse dans la bouche, en fait, ça fait un son extraordinaire. Enfin, on ne sait plus si on est dans un élément ou si c'est l'élément qui vit en nous. Enfin voilà. Donc j'ai pensé à ça. Donc voilà, c'était une parenthèse, mais c'est pour dire qu'effectivement, ça fait rêver à des sons de bulles, assez impalpables. Donc c'est la synesthésie là aussi. On joue un peu. Et puis moi, un de mes projets prochains, c'est de travailler sur un collectage de films de familles juives des années 30. Et de faire une composition, je dirais, pour 10 voix, de tous âges d'ailleurs, et de toute nature, pas seulement des chanteurs professionnels, voix enfantine, voix de personnes âgées, et puis voix peut-être aussi professionnelles, donc de 10 voix, et ça s'appellera Minyan, c'est la réunion de 10 personnes dans le judaïsme quand on fait une prière, en fait, un Minyan, et ce sera donc sur ces films de famille, qui sont des films de famille d'amateurs, bien sûr, muets, de l'été 39, c'est-à-dire de l'été qui précède la guerre, où on voit toutes ces familles de différents pays, la Belgique, la Hollande, l'Amérique, la Palestine, la France, en plein épanouissement en fait du corps, de leur vie, de la culture physique qui à l'époque était commencée à devenir à la mode juste avant la guerre. Donc c'est un projet que je mènerai avec Laurent Roth à partir de cet été, la composition.
Prochain rendez-vous de cette indiscipline pliée en quatre, c'est le mardi 22 mai à 10h pour découvrir comment la technologie modifie la pratique musicale contemporaine dans l'invention d'une nouvelle lutherie interactive et dans une dimension multimédia des propositions scéniques. Au cours de cette émission, vous avez pu écouter un extrait de 5 pièces pour Espérou et violoncelle de Georges Apergis, interprété par l'ensemble SIC sous la direction de Françoise Rivalant. Vous avez pu aussi écouter un extrait de Ségoublou de Bassekou Kouyaté et Ngoni Ba, et on se quitte avec La nuit en tête de Georges Apergis, toujours par l'ensemble SIC sous la direction de Françoise Rivalant.